BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre salle de marché personnelle, on vous accompagne BFM Bourse en direct jusqu'à 18h. Tous les mouvements de marché, on va les vivre grâce à nos experts. Le CAC 40 est en net repli aujourd'hui de plus d'1% et sous-performe d'ailleurs les autres marchés européens. On évoquera aussi Sanofi. Et si Sanofi ne passait pas par la bourse pour son pôle de santé grand public? D'après Bloomberg, Sanofi a lancé un appel d'offres pour la cession de son pôle, une opération qui serait menée en parallèle de l'étude d'une potentielle introduction en bourse, on va aussi en parler. Et puis dans quelques minutes, la bourse cache, c'est Franklin Pichard qui nous dira tout ce qu'il pense, les yeux dans les yeux, tout ce qu'il pense vis-à-vis des marchés. Mais d'abord, le soleil se lève à l'ouest, vous le savez, en bourse, c'est Wall Street qui se réveille en ce moment, l'ouverture à Wall Street, direction New York. Il est 9h32 là-bas à New York, 15h32 ici à Paris. USA Today, John Plassard nous accompagne. Bonjour John, depuis vos bureaux de Mirabeau. Ravi de vous retrouver John, ainsi qu'Étienne Braque depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne, comment Wall Street se réveille-t-il?
Bonjour à tous. En ordre dispersé, comme ces derniers jours, avec un indice Nasdaq qui se remet un petit peu de sa sous-performance de la semaine dernière. Il est stable, cet indice Nasdaq, à 17 715 points, quand le Dow Jones, qui avait bien surperformé hier, perd 0,5%, 38 915 points. Donc, il repasse sous les 39 000 points, cet indice Dow Jones. Le S&P 500, de son côté, cède 0,3% à 5 453 points. Un marché qui est bien sûr toujours dans l'attente des chiffres d'inflation aux États-Unis qui seront publiés en fin de semaine. D'ici là, vous avez certaines sociétés qui anime la séance. Dans un instant, nous parlerons de FedEx qui gagne un peu plus de 10%. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'indice S&P 500, pour l'indice Dow Jones. À noter que le dollar est particulièrement recherché. En début de semaine, vous avez un euro-dollar qui était au-delà des 1,07, mais ça ne tient pas dans la durée. 1,0667 pour cette paire euro-dollar qui est sur des plus bas de 4 séances. Quand du côté des taux, le 10 ans américain prend 7 points de base à 4,3%. Donc forcément, c'est un frein au marché action. Le 2 ans, de son côté, s'échange à 4,73 et donc une ouverture stable pour le Nasdaq, en retrait pour l'indice Dow Jones et pour le S&P 500.
John, avant de parler effectivement de FedEx dans un instant, un coup d'œil sur les indicateurs du jour. Alors, il n'y a pas d'énormes indicateurs, mais quand même les demandes de prêts hypothécaires. Quelles leçons en tirez-vous, John? Alors, on va allumer votre micro, promis.
Parce que c'est vrai. Troisième semaine de juin, et ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est la troisième augmentation consécutive des demandes de prêts hypothécaires. Ça représente quand même une hausse de 17,5% depuis le début du mois. Et vous savez, tout le monde aux États-Unis regarde les taux hypothécaires à 30 ans, parce qu'aux États-Unis, on emprunte à 30 ans lorsqu'on achète une maison. Eh bien, diminue. 6,93, c'est le plus bas niveau. 6,93%, évidemment, c'est le plus bas niveau depuis environ 3 mois. Donc, le marché immobilier américain va de mieux en mieux.
Ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Et du côté, justement, de cette économie américaine, avant, dans deux jours, l'indice PCE, l'indice d'inflation le plus suivi par la Réserve fédérale américaine, qui tombera vendredi, Étienne, ben, tout le monde regarde, effectivement, comment les chiffres sont en train d'évoluer, surtout par rapport à l'idée qu'on se faisait auparavant de cette trajectoire économique américaine. Le taux de bonne ou de mauvaise surprise pour l'économie?
Et oui, il y a un taux de surprise qui est en train de s'effondrer, John Plassard. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les statistiques, pour le marché? Comment vous voyez ça, en effet, le tout à deux jours de cette publication d'inflation aux États-Unis?
Oui, et vous savez, Étienne, il y a une courbe qu'on peut surveiller qui s'appelle les surprises économiques de Bloomberg. C'est une mesure qui agrège les différences entre les données économiques réelles et les prévisions des enquêtes de Bloomberg. Donc, c'est très concrètement la différence entre les statistiques qui sont produites et ce qu'attendent les investisseurs. Donc, si vous avez un chiffre positif, eh bien, vous voyez que les données économiques ont été meilleures que prévues. Et si vous avez une lecture négative, eh bien, ça vous indique que les données étaient moins bonnes que prévues. Eh bien, tenez-vous bien, les derniers chiffres qui sont sortis ce matin, on voit qu'il y a une évolution à moins 0,50 points. On est au plus bas. Étienne, depuis 2019, est proche des bas niveaux de 2016. Donc, très concrètement, ça voudrait dire que les données économiques aux États-Unis commencent et continuent à se dégrader. Alors, on sait qu'il y a trois raisons spécifiques, notamment, qui viennent en même temps. Premièrement, les revenus disponibles réels sont de plus en plus faibles aux États-Unis. Deuxièmement, le taux d'épargne est en train de s'effondrer aux États-Unis. On est au plus bas niveau depuis 16 mois. Et puis, la troisième des choses, eh bien, c'est les Américains qui utilisent énormément les cartes de crédit. Eh bien, commencent à être à bout de souffle. Et vous savez qu'aux États-Unis, on n'utilise pas seulement les cartes de crédit, mais aussi les cartes qu'on appelle acheter maintenant, payer plus tard, buy now, pay later. Et on voit ici que fondamentalement, les données économiques américaines seraient pires qu'attendu, moins bonne qu'attendu, et donc on verra par la suite, puisque pour l'instant c'est pas dans les tabelles du consensus.
Effectivement, et sur le front politique, on est à 132 jours maintenant de la présidentielle américaine. Demain soir, 27 juin, aura lieu le fameux grand débat, le tout premier grand débat entre Joe Biden et Donald Trump. Donald Trump qui fait monter la pression, le camp Trump, John, le camp Trump veut que Joe Biden passe un test anti-drogue avant ce débat télévisé.
Ça paraît assez fou, bien évidemment, Guillaume, mais vous savez, c'est assez sérieux parce que c'est un ancien médecin de la Maison-Blanche qui s'appelle Ronnie Jackson, qui était le médecin de Donald Trump, bien évidemment, qui demande à Joe Biden de subir, avant le débat de demain soir, un test de dépistage de stimulants avant que les deux hommes se parlent, parce que il accuse le camp démocrate de doper ou de donner des médicaments à Joe Biden pour le maintenir éveillé et l'aider à penser plus clairement. C'est pas moi qui le dis, c'est le médecin, l'ancien médecin de la Maison Blanche, et bien évidemment, Donald Trump se délecte de ces demandes qui ne seront bien évidemment pas maîtrisées et pas faites par le camp démocrate, mais la pression monte à quelques 24 heures de ce débat présidentiel. On imagine bien que on essaye tout pour déstabiliser Joe Biden.
Effectivement, et on l'observe, et vous nous le faites vivre d'ailleurs chaque jour dans ce rendez-vous USA Today au cœur de la campagne électorale américaine. Wall Street a ouvert il y a maintenant 8 minutes. On est en petite baisse là sur le S&P 500 de 0,1%, petite baisse aussi de 0,1% pour le Nasdaq. Mais une valeur aujourd'hui domine tout, de la tête et des épaules. Vous l'avez cité ce titre tout à l'heure, Étienne, il s'agit de FedEx.
FedEx qui gagne un peu plus de 10%, 12% même dans les premières minutes de cotation après la publication de résultats trimestriels. Alors, est-ce que ce sont des résultats spectaculaires d'un point de vue des coûts ou c'est vraiment, ça y est, là, les colis, ça repart, John Plassard ?
Dit que FedEx était un indicateur avancé de l'économie américaine, de la vigueur de l'économie américaine dont on parlait avant, eh bien, tenez-vous bien. FedEx dit que la demande reste faible dans la livraison des colis. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça monte de 10%? Eh bien, c'est, entre guillemets, tout simplement parce que les dirigeants du groupe ont augmenté les anticipations de bénéfices grâce à la réduction des dépenses et la consolidation des opérations qui permettent d'améliorer le rendement. Donc, c'est pas parce qu'on vend plus ou on expédie plus de colis, mais c'est parce que FedEx a réussi à faire des économies. Donc, sur ce cas-là, c'est pas un bon indicateur avancé.
N'hésitez pas, vous tous qui nous suivez, si vous avez des questions sur les marchés, vos portefeuilles boursiers, vous nous les envoyez. Et dans un peu plus de 10 minutes, Julie Cohen-Horton, ses experts, vous répondront dans Culture Bourse. Rendez-vous quotidien à partir de 15h50. John, il faut aussi qu'on parle du secteur automobile. Allemagne 2, États-Unis 0. On va démarrer. Alors, le premier but de l'Allemagne aujourd'hui, c'est dans l'univers automobile. Donc, Volkswagen va investir 5 milliards de dollars dans le spécialiste des véhicules électriques américain Rivian. Et là, vous dites, c'est 1-0 pour l'Allemagne. Pourquoi ?
Écoutez, c'est assez étrange. Déjà, c'est 5 milliards, c'est une grande somme. Et Volkswagen, on sait, est en retard sur les véhicules électriques. Eh bien, tenez-vous bien, en investissant dans une co-entreprise qui sera contrôlée à part égale, eh bien, d'un côté, Volkswagen va pouvoir accéder à la technologie de l'entreprise américaine. Et de l'autre côté, c'est une véritable bouée de sauvetage pour Rivian parce que c'est une entreprise qui est déficitaire. Donc, c'est une bouée de sauvetage financière. Et on voit ici que Volkswagen accélère sa volonté d'aller à l'encontre de certains concurrents chinois, bien évidemment, mais aussi de Tesla. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Volkswagen, mais l'investissement est lourd, 5 milliards d'euros.
Effectivement, 1-0, vous nous disiez, ça c'est le premier but allemand. Mais Étienne, on suit ce match en direct. Un deuxième but vient d'être marqué par l'Allemagne face aux États-Unis.
Avec notamment une action Whirlpool qui gagne plus de 15%. Alors, on est loin des 28% de Rivian, mais si l'action prend 15% aujourd'hui du côté de Wall Street pour Whirlpool, c'est des informations de presse qui évoquent que Bosch pourrait mettre la main sur le groupe américain, John.
C'est des rumeurs pour l'instant, mais on voit que c'est des rumeurs qui ont des effets en bourse. Eh bien, Bosch veut lancer une offre sur Whirlpool, ce qui lui permettrait de se renforcer sur le marché des appareils électroménagers en Allemagne, mais surtout aux États-Unis. Donc ça, ce serait une nouvelle vision de Bosch et une vision beaucoup plus internationale qui serait bienvenue. Mais n'oublions pas que souvent, les entreprises européennes, quel que soit le domaine, qui ont voulu s'implanter aux États-Unis, eh bien, se sont mordus les doigts. Donc faire attention à moyen, voire à moyen long terme.
Merci beaucoup. Notre Dream Team quotidienne USA Today, Joël Plassard depuis les bureaux de Mirabeau, Étienne Braque depuis la Tour Euronext, Étienne qui va nous accompagner d'ailleurs tout au long de l'après-midi, Wall Street ouvrant légère baisse, le CAC 40 étant rempli, lui, assez marqué. On perd 1% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Il n'y a pas de tension obligataire spécifique. Hein. Le 10 ans français est à 3,15. On a un écart de taux là aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, le 10 ans français et le 10 ans allemand de combien ? 72. 72 points d'écart de taux à l'instant entre la France et l'Allemagne. Mais force est de reconnaître, force est de constater que le CAC 40 sous-performe par rapport aux autres marchés européens aujourd'hui. On va bien sûr en parler. Après, ce n'est pas la catastrophe. On est à peu près à 7600 points, un tout petit peu en dessous en ce moment. 15h42, c'est la Bourse Cash. Franklin Pichard nous rejoint, directeur général de Keeping Finance. Bonjour Franklin.
Bonjour Guillaume.
Vous voulez dire aujourd'hui leurs quatre vérités au marché, vous êtes sûr ?
Oui, je suis sûr.
Pour vous en bourse, et tel est votre message, pour vous en bourse, c'est le calme avant la tempête, car tempête il y aura. Tempête il y aura. Vous l'assumez ?
Je l'assume.
Ça se passe plutôt pas trop mal, Franklin, jusqu'ici. Le marché est conscient des risques autour des législatives françaises. Il avait corrigé la semaine dernière, cette semaine, ça va un peu mieux. La semaine dernière, on était remonté. Il est conscient du côté des banques centrales qu'il n'y aura pas énormément de baisse de taux. Tout ça, c'est pricé par le marché. Bref, les risques sont dans les cours. Et vous dites, malgré tout, tempête il y aura. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que, effectivement, les marchés se sont un petit peu satisfaits trop vite et trop fort du fait qu'on considérait que les partis en présence, en l'occurrence le Rassemblement National, faisaient marche arrière. On a imaginé que lors de la réunion du MEDEF, ils avaient attendri les patrons d'entreprise et que, finalement, ça pouvait ne pas se passer si mal que ça. Alors, je pense qu'il y a une grande partie de vérité dans tout ce qui a été salué par le marché entre la semaine dernière et un tout petit peu ce début de semaine, mais on voit que ça ne tient pas. Je pense qu'effectivement, le marché, en dehors des intervenants domestiques, les marchés et les intervenants étrangers, sont beaucoup plus suspicieux, beaucoup plus inquiets. Et on le voit, vous l'évoquiez à l'instant, le spread entre la France et l'Allemagne. On voit également, quand on parle avec différents intervenants sur les LBO, sur des opérations, que les étrangers marquent le pas dans les médias, que les investissements sont au ralenti depuis la dissolution. Les investisseurs veulent voir avant de payer. Donc, quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible que à l'issue du deuxième tour, le 8 juillet, et peut-être un peu avant encore, les marchés sanctionnent une issue qui ne leur plairait pas.
D'autant que, alors, la marque France s'est construite en quelques années. Là, la France a pas mal attiré, effectivement, depuis quelques années. Une marque, c'est long à construire, très facile à détruire. On peut détruire une marque en très, très peu de temps. C'est ça qui se joue aussi autour de... Vous parliez des opérateurs de LBO, des fonds de LBO qui s'intéressent un peu moins à la France. Quand on discute avec des acteurs du private equity aussi, on entend que, manifestement, là, il y a un souci qui sera difficile à rattraper sur la France, quel que soit, d'ailleurs, le résultat législatif. Il y a une forme de prise de conscience internationale que, sur l'économie, les Français sont prêts à avaler beaucoup de discours... quelle que soit la crédibilité de ces discours. Voilà. Et c'est donc un regard sur la France un peu désenchanté de la part de l'international. Ce sera compliqué à rattraper ça, quel que soit, Franklin, le résultat de ces élections.
Oui, je pense qu'il va y avoir une phase d'observation qui ne va pas être négligeable et que les étrangers attendront. Et puis, on va avoir un choc des calendriers. Hein. On va avoir les élections et puis, 8 jours après, tout le monde sera dans les starting blocks et dans l'attente des résultats du T2. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que ça aussi, et ça j'ai eu l'occasion de le remarquer en reprenant les graphiques sur 10 ans du CAC 40. Quand vous regardez le CAC 40 sur 10 ans, le T3 est historiquement plutôt un mois pas terrible sur le marché. En 10 ans, je crois qu'on a été 3 fois positif et plutôt cette fois légèrement voire négatif. Donc c'est vrai que c'est pas la meilleure période pour s'inscrire dans des élections, dans un choc politique qui va devoir affronter les marchés, les investisseurs. Et ça, je pense que du coup, on risque d'avoir une petite tempête quand même. Alors, longue, sûrement pas. Il y a des points techniques sur les marchés. Hein. 7-1 parle d'un point bas à 7160. Donc, si on ne tient pas dans les ranges dans lesquels on est aujourd'hui, on avait décroché, on avait une zone d'accumulation autour de 7900 points. On a décroché, on est sorti par le bas. On est venu se poser une première fois, on s'est repris légèrement. Mais beaucoup d'analystes techniques que j'écoute disent on a 2 chocs possibles et dont l'un final qui peut être autour de 7160. Ça fait donc, c'est ce que j'appelle une tempête, une correction qui sera plus ou moins marquée et selon les titres.
Et vous méfiez vraiment de ce troisième trimestre qui historiquement n'est pas le meilleur mois boursier. Effectivement, c'est un mois relativement volatile, souvent troisième trimestre. On va voir ce que nous disent les entreprises avec leurs publications. Et viendra pour le marché français ce facteur aggravant, à savoir non seulement alors les législatives, on verra quel en sera le résultat, mais en plus ensuite toute la phase de constitution du gouvernement, des intentions de politique économique, etc., auxquelles le marché, pendant plusieurs semaines, sera susceptible de réagir, bien sûr, et puis à l'automne, le vote du budget. Bref, on entre dans une phase un peu complexe, effectivement, politiquement, qui pourrait peser durablement. On va voir sur le marché français. Comment est-ce qu'on fait, du coup, quand on est investisseur? Vous avez pas mal de clients qui épinent finance. Qu'est-ce que vous leur dites? Quelle stratégie adopter aujourd'hui?
C'est ce qu'on a déjà dit, eu l'occasion de dire au lendemain des élections. C'est-à-dire, on voit que les investisseurs, que ce soit les particuliers et ceux qui peuvent le faire, ont fait un maximum de cash. Parfois, j'entends même des chiffres, j'entends des gérants qui disent ne conserver que 5% sur la France dans l'immédiat. Alors, ça me semble excessif. Je pense que tout redémarrage est imprévisible et qu'il ne faut pas être complètement avoir les deux pieds sur le quai, il faut garder un pied dans le train. Donc
d'autant juste les programmes économiques, pas tous, mais certains d'entre eux sont peu à peu revus. Je dis pas qu'ils sont bien, mais en tout cas du point de vue des marchés, il n'y a pas matière aujourd'hui, du point de vue de ces programmes-là qui sont peut-être dans les sondages un peu plus favoris que les autres, du point de vue des marchés, pas de nature à paniquer. Ça ne veut pas dire que le marché achète, mais ça veut dire que le marché, en tout cas jusqu'ici, ne voit pas raison de prendre feu, quoi, quelque part.
Voilà. Non, il n'y a pas de raison. On est toujours déconnecté des fondamentaux. Hein. On le voit, un jour on monte fortement, le lendemain on baisse fortement. On voit bien que ce ne sont pas des investisseurs finaux, des particuliers ou des gérants de fonds qui font la pluie et le beau temps sur les marchés. On le sait, il y a plus de 96-97% qui sont faits par des automates et par des gestions actives. Donc on est vraiment... On est vraiment dans une situation où il faut faire très attention de ce décrochage entre les fondamentaux, comme vous le dites, et la volonté de certains opérateurs d'user et d'abuser la situation pour créer de la volatilité sur les marchés.
Vous achetez quoi? Plutôt les États-Unis que l'Europe, ou plutôt l'Europe que la France? Qu'est-ce que vous faites?
Oui, typiquement, dans l'environnement actuel, on avait refait du cash, hein, c'est ce que j'avais eu l'occasion de dire, on avait refait entre 25 et 30% de cash, et puis on renforce la part américaine. Là aussi, on voit que les marchés sont très très volatiles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, revenir sur des titres qui restent avec des fondamentaux et des perspectives intéressantes, des titres comme Berkshire Hathaway, dont on peut faire confiance toujours à Warren Buffett, des titres comme Microsoft, Amazon, toujours les mêmes. Mais ceux qui n'en avaient pas, qui sont arrivés récemment, ou ceux qui avaient pris peur la semaine dernière quand ils se sont dit « ça y est, c'est fini », eh bien oui, on revient sur ces titres-là, parce que aujourd'hui il faut avoir des valeurs américaines.
Ce soir, Micron Publi sera après la clôture. Vous aimez bien Micron?
Oui, on aime bien. On aime bien parce qu'on considère que par rapport à Nvidia, Micron Technologies est un incontournable dans le secteur.
Il nous appelle, vous avez entendu la cloche? Il nous appelle là, depuis la tour Euronext. C'est la séance en direct, priorité au direct depuis la salle de contrôle du CAC. Étienne Braque est avec nous. Rebonjour Étienne. Comment, alors cet après-midi, comment le CAC 40 se porte-t-il?
Bonjour à tous.
Bah depuis 15h, il y a un léger mieux, mais vous avez quand même une glissade assez impressionnante depuis ce matin 10h, puisque le CAC 40, peu de temps après l'ouverture, gagnait 0,5%, et puis il a perdu plus de 1,3% à 15h. Alors depuis, il tente de se reprendre. Désormais, c'est une baisse de 0,9%, mais il est toujours sous les 7600 points, ce CAC 40, 7593 points, toujours bloqué entre ces 7500, 7700 points. Des volumes d'échanges aujourd'hui qui se calment un petit peu après la baisse impressionnante de Airbus hier. 1,4 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. À noter les taux aux États-Unis qui remontent, le dollar qui est recherché, avec des commentaires d'une gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, qui était très très prudente sur les baisses de taux et qui reparle même de hausse de taux désormais. Donc vous imaginez bien que le marché est en plein doute. Et puis du côté de Nvidia, c'est toujours la folie, avec un titre qui a perdu 6% en début de semaine, plus 6% hier. Et là désormais, il se stabilise. Tout ça a bien sûr un impact sur le Nasdaq, qui tente de se reprendre au bout de 20 minutes d'ouverture, plus 0,1% pour l'indice Nasdaq, quand le S&P et le Dow Jones sont en léger retrait.
Effectivement. Franklin, on voudrait vous interroger aussi sur Sanofi. Sanofi, et si Sanofi se passait de la bourse pour introduire son activité grand public? D'après Bloomberg, Sanofi a lancé un appel d'offres pour la cession de cette activité grand public. Est-ce que c'est peut-être une façon de préparer les investisseurs à un contournement de la bourse, dans la mesure où effectivement il y a de la stabilité politique à venir sans doute en France? Est-ce que voilà, c'est une introduction en bourse de moins pour le marché français? Est-ce que Sanofi, en lançant cet appel d'offres, ouais, essaie de contourner une possible introduction en bourse?
Oui, alors en plus je pense que j'ai eu l'occasion de parler avec des gens chez Sanofi, c'est un peu cellule de crise tous les jours chez Sanofi, et c'est vrai qu'il y a eu une triste expérience avec EuroAPI. Alors on n'a pas forcément envie de recommencer, hein. On sait que la partie grand public, entre autres c'est le Doliprane, ce sont des médicaments costauds. On parle d'une opération de 20 milliards de dollars, donc c'est important. Et on voit que les fonds d'investissement, de capital investissement, sont très intéressés. On a Advent International, on a Payl Partner, et puis en embuscade, on a Blackstone et autres qui sont très intéressés par l'opération. Donc il peut y avoir, même si la société ne fait pas de commentaires dans l'immédiat, on pense qu'effectivement il y a des probabilités qui peuvent être prises très très au sérieux de contourner la bourse en faisant un placement directement auprès de sociétés de capital investissement.
Et donc Sanofi, d'après Bloomberg, a lancé cet appel d'offres pour la cession de son pôle d'activité grand public, une opération qui serait menée en parallèle de l'étude d'une potentielle introduction en bourse. C'est pas encore abandonné, effectivement, et Sanofi sur tout cela n'a pas communiqué encore. Merci beaucoup Franklin Pichard, Kipling Finance, régulièrement à nos côtés. Puis on vous interroge aussi sur nos réseaux sociaux, notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourse. Question du jour consacrée au secteur aéronautique après la chute d'hier et encore aujourd'hui d'ailleurs des valeurs du secteur. Est-ce que vous avez envie de racheter certaines valeurs, et en priorité Safran ou plutôt Thales, plutôt Airbus, ou encore racheter en priorité Dassault Aviation? Laquelle êtes-vous prêt à racheter en priorité donc dans cet univers aéronautique qui recule encore aujourd'hui? La question reste ouverte. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux et nous laisser vos arguments. Vos arguments, ils sont importants, vos arguments, en commentaire. On rebondira dessus d'ailleurs à partir de 16h30 avec la famille BFM Bourse.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Où vais-je? Pour savoir où aller en bourse, mieux vaut comprendre déjà où vous en êtes. C'est la mission de Julie Cohen-Horton qui vous guide chaque jour Culture Bourse. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume. Faut venir ici. Faut venir ici pour nous poser des questions, parce que oui, vous le savez désormais, vous pouvez nous écrire pour avoir un éclairage pour arbitrer vos portefeuilles d'investissement. Et il suffit de nous écrire à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous avez la chance de nous regarder à la télévision.
Ah, Julie, l'été est arrivé enfin. On a besoin de prendre le large.
Et la fine fleur de nos experts, bien c'est Thibaut François qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Thibaut.
Bonjour Julie.
Pour Fastea Capital. Alors on a reçu une question de Daniel à propos de Fountaine Pajot. Il se demande pourquoi le titre chute autant. C'est quand même moins 13% depuis le début de l'année. Donc on va naviguer à vos côtés Thibaut pour nous éclairer. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec Fountaine Pajot?
Bah, typiquement, ça fait partie des valeurs, on va dire, standards des petites et moyennes valeurs depuis le début de l'année, et j'ai envie de dire depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on arrive sur des entreprises qui sont bien gérées, qui progressent chaque année, du chiffre d'affaires, de la croissance, de l'EBITDA, pas de dette, etc. Sauf qu'il y a très peu d'intérêt de la part des investisseurs depuis de nombreuses années. Alors, l'indice PME 150 baisse de plus de 10% cette année, comme Fountaine Pajot. Alors Fountaine Pajot, il y a en plus eu les élections et donc les votes qui ont sanctionné le titre. On était pratiquement à 140 euros, on est passé en dessous de 100 euros aujourd'hui. Donc il y a eu aussi cette sanction-là. Mais typiquement, on est dans une entreprise qui marche bien et qui, comme les autres valeurs, petites et moyennes valeurs, perdent 10, 15, 20 ou 30% depuis quelques mois. Donc on est vraiment dans une typiquement, on est vraiment dans une tendance baissière sur l'ensemble des petites et moyennes valeurs et les investisseurs s'intéressent peu à l'ensemble du marché.
Donc ça, c'est pour l'ensemble du marché. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ce titre? Est-ce qu'on continue quand même à s'accrocher ou alors on lève l'ancre?
C'est une boîte géniale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point faible dans le dossier. C'est-à-dire qu'il y a du carnet de commandes. Il y a une valorisation qui est autour de 160 millions d'euros aujourd'hui sur Fontaine Pajot. Il y a 120 millions d'euros de cash, de trésorerie nette dans l'entreprise. Ils arrivent à sortir entre 40 et 50 millions d'EBITDA. Ils ont un carnet de commandes qui est plein. Tout va bien. C'est-à-dire que tout va bien. Aujourd'hui, c'est des valorisations qui sont juste ridicules. Il faut être patient. Fontaine Pajot va rebondir, certainement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, les élections, bien sûr, mettent un petit peu de tension sur le marché, mais ce sont des entreprises qui sont très bien gérées et sur lesquelles on a une très bonne visibilité. Donc, bien sûr, il faut garder Fontaine Pajot dans le portefeuille.
Si ça vous dit, Thibault, vous restez avec nous pour naviguer au cœur de cette séance, comme dirait Julie.
Avec grand plaisir pour naviguer avec vous,
effectivement. Guillaume. Bon, on prend un peu l'eau aujourd'hui sur le marché. Le CAC 40 recule de 0,9%. Culture Bourse, chaque jour, les réponses à vos questions, mais aussi Culture Bourse, la haute pédagogie financière, Julie.
Oui, puis alors aujourd'hui, on a une question hyper importante parce qu'on entend quand même souvent plusieurs choses. On dit que pour performer, il faut prendre des risques et en même temps, on dit que la meilleure façon de s'enrichir, c'est quand même d'épargner. Du coup, on a notre question existentielle, notre sujet du jour. Est-ce qu'il vaut mieux épargner, investir ou trader? On va voir ça tout de suite avec Mathias Bacino pour Trade Republic. Bonjour Mathias, merci d'être avec nous. Vous n'avez pas 4 heures, vous avez 3 minutes pour nous convaincre.
Et c'est vrai qu'il y aurait des choses à dire. Alors, il y a depuis quelques temps, depuis 2 ans à peu près, des centaines de milliers de Françaises et Français qui se sont mis à placer leur argent d'une manière ou d'une autre. Et il est très important de faire la différence entre ces trois concepts, épargner, investir et trader, parce que si on se mélange les pinceaux entre les trois concepts, ça peut causer des catastrophes ou alors ça peut causer une performance trop faible. Donc, épargner, c'est une activité qui consiste à prendre de l'argent et à le mettre de côté, quelque part, sans risque. En général, c'est dans un objectif de protection et on recommande à tout le monde, à tous celles et ceux qui nous écoutent, d'avoir en permanence, si possible, 3 mois, 4 mois, 5 mois de revenus de côté, de cette manière-là. Avec l'épargne, on essaye d'obtenir ce qu'on appelle le taux sans risque. Aujourd'hui, en Europe, c'est 3,75%. Et ça consiste à vraiment ne prendre aucun risque. C'est le taux sans risque. Donc, on épargne, on met de côté dans un objectif de protection, un objectif de sécurité. Investir, c'est autre chose. Investir, c'est placer de l'argent à long terme dans l'économie réelle pour essayer de battre l'inflation. Investir, c'est construire son patrimoine. Épargner, se protéger. Investir, c'est construire. À long terme, en diversifiant si possible, en prenant le moins de risques possible, en sachant qu'investir, c'est une activité où on peut prendre plus de risques quand on est jeune que quand on est vieux, puisque quand on est plus âgé, on cherche à sécuriser. Donc, investir, c'est placer de l'argent dans l'économie réelle par le biais des actions, des ETF, de l'or, peu importe, mais investir.
Et donc, trader, si on est très, très jeune et qu'on a plein d'argent, on trade?
Alors, trader, c'est un métier, c'est une activité à part entière, ce qui n'est pas le cas de l'épargne, ce qui n'est pas le cas de l'investissement. L'épargne et l'investissement, c'est pour tout le monde. Le trading, c'est pour celles et ceux qui sont absolument passionnés et qui vont mettre en place un money management, c'est-à-dire une gestion financière adaptée au trading. Le trading, ça consiste à faire quelque chose de très simple, essayer d'acheter au plus bas, essayer de revendre au plus haut. Ça paraît simple comme ça, c'est attractif, c'est attirant, mais en réalité c'est très difficile. 90% des gens qui essayent n'y arrivent pas. Donc si vous essayez de trader, faites-le après avoir épargné et après avoir investi. On fait les choses dans l'ordre. Quand on commence le judo, on commence pas tout de suite par essayer d'aller prendre en duel Teddy Riner.
Du coup, si on se place du côté de l'investisseur qui débute, qu'est-ce qu'on fait? Mieux vaut quand même combiner à la rigueur plutôt les deux premières approches.
Exactement. Pendant très longtemps, les Françaises et les Français ont confondu l'investissement avec le trading, alors qu'en fait, l'investissement est une activité qui est beaucoup plus proche de l'épargne. Donc, sur l'échiquier de ce qu'on peut faire avec son argent, il y a vraiment trading qui est très risqué et très chronophage. L'investissement que tout le monde doit s'y mettre avec la crise des retraites de toute manière, et l'épargne pour la sécurité.
Merci beaucoup Mathias Bacino pour Trade Republic d'être venu dans Culture Bourse.
Culture Bourse chaque après-midi. Merci Mathias. Chaque jour, effectivement, 15h50. Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent. C'est leur mission. Le CAC 40 est en repli de 0,9%. On va en reparler, bien sûr, dans un instant. Étienne Brack sera avec nous depuis la Tour Euronext et on reviendra aussi sur Sanofi. Et si Sanofi ne passait pas par la bourse pour vendre son pôle santé grand public? Question qu'on pose, ou que pose, en tout cas, les informations que rapporte aujourd'hui Bloomberg. On en reparle aussi après la pause. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.